Bon retour tout le monde à un autre épisode de « C'est quoi ta spécialité? » Aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec un docteur qui est un radiologiste, en fait, docteur Mathieu Boily.
Oui, docteur Boily a fait le même bac que moi avant de se lancer en médecine, donc c'est pour ça qu'on l'a contacté. Ça a été bien le fun de s'entretenir avec lui. Là, on voyait la passion dans ses yeux quand il parlait des cas différents qu'il voit à chaque jour, des cas plus complexes. C'est vraiment un passionné de la radiologie.
Oui. Donc, sur ce, on va aller remercier nos commanditaires. Donc, on aimerait ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une compagnie de gestion financière qui est spécialisée en médecin depuis 1970. En fait, il permet à donner des services gratuits aux étudiants et aux résidents en médecine, autant en gestion de portefeuille, gestion de dette et gestion de prêts et bourses.
C'est vraiment une équipe qui est facile d'approche. Ils vont, comme vous pouvez booker un rendez-vous avec eux dès maintenant, puis ils prennent vraiment le temps de discuter avec vous de ce dont vous avez besoin financièrement, des meilleures stratégies pour optimiser vos finances. Puis, ouais, c'est vraiment agréable de discuter avec eux, même si c'est de la finance, c'est pas plate avec Archer.
Ouais, donc si vous avez besoin de questions, conseils, n'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous.
Super, ben merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est bien contente de vous recevoir.
Ça me fait plaisir.
Pour commencer, on aimerait apprendre un peu à connaître votre parcours. Donc, est-ce que vous avez toujours su que la médecine vous intéressait?
Non, mon parcours est un petit peu long.
Ah ouais?
Probablement un peu comme Danny, puis toi aussi. Si on retourne dans le temps, j'étais allé jouer au hockey aux États-Unis. J'ai fait ma 12e année là-bas. Donc, j'ai pas fait mon cégep ici. Et après mon année là-bas, je suis revenu à Concordia. J'ai fait un bac en thérapie du sport
en
4 ans. Il fallait que je fasse des cours de plus parce que j'ai pas fait mon cégep. Fait que j'ai fait une année de plus. À la place de 3 ans, ça m'a pris 4 ans. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à être intéressé à l'anatomie, j'aimais ça, la physiologie. Oui, j'aimais la thérapie du sport, c'était le fun. J'ai joué au hockey toute ma vie, ça faisait du sens pour moi. Puis là, je continuais à avancer, puis le plus que j'avançais, je trouvais ça intéressant. J'aimais beaucoup la physiologie, encore une fois, l'anatomie. Troisième année, quatrième année, là, j'ai comme décidé, OK, ça serait peut-être intéressant d'appliquer en médecine, donc j'ai fait application. Je ne peux pas vous accepter. Je n'étais pas assez bon. C'est très contingenté et tout. Fait que là, j'ai décidé de faire j'ai fait une maîtrise en physiologie de l'exercice. Et là, ensuite, je m'ai fait accepter pendant ça. Et là, je suis allé faire ma médecine à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai fait mon 4 ans là-bas en médecine. Puis là, on va discuter sûrement de choix de spécialité et tout. Là. Puis après ça, mais ça a été la résidence à McGill en radiologie. Et ensuite, une année de fellowship à l'Université du Michigan à Ann Arbor en imagerie musculo-squelettique. Et là, depuis ce temps-là, ça fait 11 ans que je suis patron à McGill. Là. Fait que c'est un petit peu ça. Beaucoup d'années à l'université.
Ouais, quand même!
C'est un bon parcours. Mais sinon, est-ce que dès que vous avez commencé en médecine, vous saviez que vous alliez en radiologie? Comment vous avez eu la piqûre, en fait, pour la radiologie?
Pas du tout. Moi, j'étais plus comme mindé. J'avais fait thérapie du sport, physiologie et exercice. J'ai joué au hockey presque toute ma vie. J'étais vraiment guéri sur ortho. Là. J'avais une idée dans ma tête. J'ai travaillé avec des orthos. J'avais une bonne idée, mais c'était ortho. C'est sportif, on va dire, que j'ai été parce qu'en thérapie du sport, fait que t'étais avec les équipes sportives et tout, donc t'as un biais un peu sur l'exposition, sur un aspect très médecine sportive de l'ortho. Donc moi, mon target, c'était ça. Puis là, quand je suis arrivé en médecine, mais les premières années, c'est un peu plus difficile. T'as pas beaucoup de contact avec les spécialités, c'est beaucoup de théorie dans les classes et tout. Puis honnêtement, j'avais aucune idée c'était quoi la radiologie. Première, deuxième année de médecine, on n'a pas vraiment de cours. En tout cas, à Sherbrooke, on n'avait pas grand-chose. Puis si on a eu, ils n'ont pas fait un impact sur moi, puis je m'en souviens pas. Donc, j'avais aucune idée whatsoever c'était quoi la radio. Et là, quand on commence à faire nos rotations en troisième, quatrième année, obviously, moi, j'ai pris toutes mes électives en ortho. Fait que là, j'ai fait mes stages d'ortho. J'aimais ça, mais... je voyais pas faire le reste de ma vie, on
va
dire.
Il y avait pas le petit
impact. Il y a certains aspects que j'aimais, mais globalement, sais, c'est l'ortho général, là. C'était à Sherbrooke, on faisait un peu de tout et tout, les consultes de l'urgence et tout. C'était pas, tu sais, j'aimais, oui, les aspects sport et tout, mais on va dire que la spécialité en général, c'est pas que j'aimais pas ça, mais je me voyais pas faire ça le restant de ma vie. Fait que là, j'ai comme paniqué un petit peu. J'ai dit, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? J'ai aucune idée.
Là, c'est cru.
Tu sais, oui, OK, je peux faire ortho, puis ça va être correct. J'ai dit, OK, je pourrais faire médecine de famille, je peux faire autre chose, mais je sais pas, ça, en tout cas, j'avais un petit dilemme, là, c'est quoi que je vais faire. Et au fur et à mesure qu'on faisait nos stages, à quasiment tous les stages, on se ramassait à aller reviser des cas en radio. Puis on allait, on revisait, puis on s'en allait. Moi, c'est comme, ça me tente de rester. Ça a l'air intéressant, ça. C'est le fun, on va, on a nos réponses, puis on... En tout cas, il y a quelque chose qui m'intéressait. Là, j'ai décidé de faire un stage et tout, puis c'est là que ça a commencé, que j'ai commencé à avoir la piqûre un petit peu. Puis le plus de stages que j'ai fait, j'aimais vraiment ça. J'aimais vraiment l'aspect diagnostique, l'aspect de... T'as un problème en avant de toi, il faut que tu trouves une solution un petit peu. Donc cet aspect-là, c'est ça un peu qui m'a amené à la radio. Et j'ai fait une couple d'autres rotations et j'ai fait application, je m'ai fait accepter à McGill. Donc c'est un petit peu ça comment je m'ai rendu en radio.
Okay. Ouais. C'était comme un choix un peu de dernière...
Un petit peu. J'ai fait l'application en deux. J'ai fait ortho et radio. Je m'ai fait accepter dans les deux, mais en fin du compte, je voulais vraiment revenir à Montréal. Ma famille était ici. Donc, je m'ai fait accepter à McGill, puis j'étais comme content. Puis ça, the rest is history, comme on dit.
Puis la résidence, comment ça se passe être résident en radio? Est-ce que le mode de vie est intense pendant ces années-là?
Je pense que toutes les résidences sont difficiles. C'est différent. Si tu compares chirurgie à radio, c'est sûr que les heures et tout sont différentes. La chose que peut-être j'avais pas réalisé ou qu'on réalise pas, il y a beaucoup, beaucoup de lectures et d'études en radio. Des gros textbooks, c'est beaucoup, beaucoup de lectures. Donc, ton horaire est peut-être un peu plus contrôlé, mais il y a beaucoup de lectures. Puis c'est rendu pire que quand moi je l'ai fait. Là. La progression est assez intense. En radio, ça suit le beat de la technologie. Donc, vous pouvez imaginer que il faut suivre le beat, puis il y a beaucoup plus de choses qui sortent à chaque année. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de lecture. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Je me réveillais le matin, puis j'étudiais le matin, puis je faisais m'asseoir, puis lire, puis étudier. On va dire que j'avais de l'expérience, j'avais fait assez d'années d'université pour savoir comment étudier, donc ça me dérangeait pas trop d'être tout seul puis étudier. Les gardes sont occupés, c'est très occupé comme garde. Mais d'un autre côté, l'horaire, il y a un meilleur contrôle sur l'horaire. Je veux pas dire que c'est parfait, mais quand t'es pas de garde et tout, tu finis à, tu sais, les résidents s'en vont à 5h30, 6h, puis quand t'es pas de garde, t'es fini. Donc t'as un bon contrôle, on va dire, sur l'horaire, un meilleur contrôle que d'autres spécialités qui peuvent être un peu plus unpredictable, on va dire. Mm-hmm. Donc, cet aspect-là est intéressant, mais c'est pas... Il n'y a pas de résidence facile ou difficile. Ils sont toutes difficiles, puis il y a certaines résidences que c'est plus intense peut-être à l'hôpital, c'est plus intense sur l'horaire, c'est moins intense sur certaines choses. Mais la résidence, en général, c'est difficile dans tout. Là. Mais ça varie de spécialité à spécialité. Là.
Puis, de quoi ça a l'air une journée typique en radio, mettons, un chiffre? Parce que, je sais pas si c'est juste moi, je sais pas, mais j'ai l'impression, est-ce que tu fais juste lire des scans à journée longue?
On ferme les lumières, on est assis, puis on se parle toute la journée, c'est ça?
Dans le noir.
On parle à personne, dans le noir, on est dans le noir, puis on parle pas à personne. Ça peut être, oui. C'est sûr qu'il y a cette composante-là. Je veux pas mentir, oui, je suis assis dans mon bureau tout seul pendant des heures et des heures de temps à me parler à moi-même, puis à regarder, puis à diagnostiquer des cas, mais il y a beaucoup plus d'interactions. Moi, en MSK, je fais des procédures, donc il y a de l'échographie, il y a des injections, donc interaction avec les patients. Oui, l'interaction n'est pas aussi clinique que d'autres spécialités, mais c'est quand même l'échographie, t'as le patient, t'as tout, t'as tes collègues, t'as les autres médecins qui viennent reviser avec toi, fait que oui, t'as beaucoup d'interactions. Une journée normale typique, on rentre, habituellement, tu commences vers 7h30, 8h, ça dépend, il y a du monde qui commence plus de bonne heure, mais on va dire 7h30, 8h, Là, c'est de faire les cas d'urgence, donc les scans overnight de l'urgence. Il faut s'occuper de ça. Il faut les lire, les radiographies d'urgence. Fait que là, avec les résidents, avec les fellows, on divise tout le travail. Moi, j'en fais un petit peu. Eux, ils en font. On revise. Et là, on passe une couple d'heures à faire ça. Après ça, c'est les cas externes, les IRM, les radiographies, les scans externes. Puis comme ça, ça passe ta matinée. Vers l'heure du lunch, pour moi, je prends un break assez court, on va dire 5-10 minutes. puis je travaille sur l'heure du lunch parce qu'à 4h30, 5h, moi, je vais avoir fini. Je vais être à jour. Donc, j'aime mieux travailler un peu plus sur l'heure du lunch. Puis à la fin de la journée, on est à jour. Puis je suis à jour avec mes résidents. Puis tout ce qui rentre, on y va au fur et à mesure. Donc, j'essaie d'avoir un 8 à 5, mais on travaille fort durant ce 8 à 5-là. Mais quand 5h arrive, on est à jour, puis on s'en va. Mais tu sais, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de demandes, ça l'arrête pas.
Oui, justement, je voyais, je me suis comme amusée à regarder quelques statistiques de spécialité. Puis, il y a beaucoup de gens en radiologie qui se sentent comme overworked, comme si dans leur spécialité, plus que dans vraiment plusieurs autres domaines. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez comme chez vos collègues ou vous-même?
C'est comme j'ai dit, ça l'augmente. Depuis que j'ai commencé, depuis 11 ans, à chaque année, c'est de plus en plus occupé. Ça augmente à chaque année. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup d'études. Il y a beaucoup de scans, il y a beaucoup de radio, il y a beaucoup d'IRM, il y a beaucoup de demandes. Puis à chaque année, ça augmente. Puis comme j'ai dit, ça suit le beat de la technologie. Fait que les scans, les IRM, ça se fait de plus en plus vite. Fait que tu es capable d'en faire plus. Il faut en lire plus. Fait que imagine, tu sais, un ordinateur de là 10 ans, ça serait frustrant, le rainbow wheel, puis ça gèle, puis les blue screens, c'est pas trippant. Mais de dire un ordi de maintenant, mais en dedans de 10 ans, c'est ma pratique. Moi, je me souviens faire des scans, des fois, il fallait arrêter pour le poumon, puis il fallait le faire en deux shots sur les vieux scans. Là, tu peux faire tête aux pieds en une couple de secondes. Donc, la technologie, oui, elle a beaucoup affecté, puis elle affecte encore notre discipline, et ça augmente les volumes. Puis il nous faut, you strap on, puis tu travailles, puis ben, tu t'adaptes, tu t'habitues, mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de travail.
OK. Puis est-ce que, justement, on parle beaucoup de technologie, c'est quand même omniprésent dans cette spécialité-là. Est-ce qu'il faut avoir vraiment un gros intérêt pour la technologie pour s'en aller à la radiologie ou pas nécessairement?
C'est une bonne question. Ça l'aide, mais non. T'es pas obligé d'être super tech savvy puis de connaître tout sur les ordinateurs, sur la physique et tout. Moi, c'était une des choses qui m'avait intéressé, parce que j'aime la physique. J'ai toujours aimé la physique. J'aime les ordinateurs, j'aime la technologie. Donc, cet aspect-là, c'était intéressant pour moi. Mais il y a beaucoup de monde qui, on va dire, ils sont pas capables de faire autre chose, ils sont pas vraiment capables de troubleshooter. S'il y a un problème avec l'ordi, il faut qu'ils appellent l'IT person. Là.
C'est quand même des bons
radiologistes. C'est des bons radiologistes. Oui, il faut que tu sois, faut que tu connaisses un peu comment utiliser ta souris puis un keyboard, mais c'est basic computer skill. T'es pas obligé d'avoir des compétences avancées pour faire la radio. Là.
Fait que c'est mais pas pour ceux que ça intéresse, probablement que s'il y a des développements vraiment intéressants au niveau technique d'imagerie puis ces trucs-là. Okay.
Ça t'aide à comprendre la physique, la technique en arrière de tout. Et aussi, ça peut pousser à la recherche. Fait que si t'es intéressé dans ces aspects-là, t'as tout le temps l'aspect recherche. Fait que la recherche, c'est assez vaste en radio. Ça peut être une recherche technique, ça peut être plein d'affaires. Donc oui, c'est un intérêt, c'est juste ça rend les choses beaucoup plus faciles. Puis d'avoir une connaissance et tout sur les machines, comment que ça marche et les fonctions, ça fait juste te rendre un meilleur radiologue. Mais est-ce que ça change ton diagnostic? Non, c'est juste que, en tout cas, moi, j'aime ça comprendre comment que les choses marchent, puis c'est un peu plus le fun quand tu comprends un peu comment que tes machines marchent, puis tes ordi marchent. Puis quand il y a des problèmes, tu es capable de les résoudre toi-même.
Ouais, c'est sûr.
Mais non, c'est pas nécessaire.
Okay. Y a-tu une caractéristique, par exemple, entre vos collègues qui ont remarqué que tout le monde a? C'est quelqu'un qui se dit « je t'intéresse à la radio », y a-tu une chose qu'il faut au moins que... S'ils disent « ah, tous les radiologues là, sont pas mal, là. » Dans cette lignée-là.
Et donc, je prends c'est quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça. La plus grosse conférence de radiologie, c'est RSNA, c'est à Chicago. C'est comme quelqu'un qui m'avait dit, regarde, c'est tout des nerds partout. Il y a un peu l'aspect geek, nerd. Oui, mais c'est très variable. Ça l'attire, oui, certaines personnalités, mais c'est tellement variable, puis il y a tellement de variabilité entre personnes, puis spécialité, puis la spécialité est tellement vaste, puis tu peux t'en aller dans tellement différentes directions que ça l'attire comme quand même différents mondes, mais oui, tu sais, t'as plus de monde, on va dire, nerd, geek, que ça l'attire. Mm-hmm. Peut-être un peu moins personable, peut-être, je sais pas. Ça, <c'est... rire> le monde qui veut être dans leur bureau et tout. Mais, tu sais, c'est différentes personnalités et tout, mais c'est, t'as quand même une bonne variabilité, là.
OK. Puis justement, on peut-tu en parler un peu des... Tu sais, c'est quoi la palette, là, de tout ce qui serait possible en radiologie? Tu sais, il y en a qui font plus de procédures, je pense, que d'autres qui font vraiment plus le diagnostic. Mais c'est quoi les différents chemins possibles une fois qu'on s'en va en radiologie?
Donc, la chose... un de mes amis que j'étais en médecine avec, là, avec, il a fait radio. Lui, avec, c'est un choix de dernière minute. on est deux allés en radio. Lui est allé en radio générale. Lui a fini sa résidence. Puis après sa résidence, il n'a pas fait de fellowship. Puis il est allé travailler en communauté. Donc, il fait radiologie générale, que tu fais de tout. Ça, j'en fais encore. Je fais encore des semaines de remplacement, des choses comme ça. Donc, j'en fais encore de la radiologie générale juste pour keep up to date puis rester à faire ça. Donc, tu as cette option-là de faire tout. Là. Tu fais de l'IRM, tu fais du scan, tu fais tout. Tu peux pas être un expert à tout, mais tu deviens très bon à tout, puis tu peux, tu sais, dans un centre communautaire, c'est pas un centre spécialisé comme à McGill. Donc ça, c'est une option. Après ça, la majorité du monde, ils font un fellowship au moins. Puis là, tu peux aller en musculo-squelettique, en imagerie cardio-thoracique. Tu peux faire encore plus pousser puis aller sur le cœur encore plus. Tu peux faire abdomen. Tu peux faire neuro, ORL neuro, des différentes choses. Là, tu as radiologie d'intervention qui va peut-être faire une branche. En ce moment, c'est encore en radio, mais c'est radiologie d'intervention. Donc, c'est beaucoup interventionnel et tout. Donc, tu as toutes ces choses-là. En ce moment, en centre universitaire, habituellement, le monde qui se fait engager, ça prend au moins deux fellowships. Donc, c'est soit deux ans de fellowship ou deux fellowships différents, mais ça, c'est très poussé en centre universitaire. Puis là, tu fais comme moi, quand j'étais à McGill, je fais seulement de l'imagerie musculo-squelettique. Donc, à journée longue, c'est des IRM musculo-squelettiques, des radios, des scans, beaucoup d'échographies. Donc, tu deviens très bon dans une sous-spécialité. Tu deviens expert, c'est pour ça qu'on a un centre tertiaire. Donc, c'est toutes ces options-là. Puis, en dedans, si tu veux encore plus préciser, en dedans de musculo-squelettique, moi, mon fellowship était très axé sur l'échographie, tandis qu'une autre de mes collègues, c'était plus axé sur l'IRM. Donc, on vient se complémenter dans notre groupe avec différentes expertises dans l'expertise. Donc, on devient très, très pointu. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, oui, tu as un grand, grand, grand... Tu as beaucoup d'options. Puis dans ces options-là, il y en a encore plus. Donc, pour trouver quelque chose que tu aimes faire, c'est relativement facile
et tout. Je trouve ça intéressant que vous fassiez un peu les deux. Là, vous êtes comme sous-spécialisé, vraiment pointu, puis vous faites ça un peu avec Gil, mais en même temps... garder quand même un peu de radiologie générale dans l'année. Là, ça, c'est quand même, je trouve que ça doit être un bon entre-deux. Là.
Moi, j'aime ça. Ça garde le contact. Et j'ai passé 5 ans de ma résidence à faire de tout. Mais j'aime ça. C'est le fun. Ça garde actif. Faire des gardes, voir des appendicites, parler aux chirurgiens pour appendices. En tout cas, j'aime le changement. Moi, s'il faudrait que j'aille à la même place, à même hôpital à chaque jour, dans le même bureau, faire la même chose, pour moi, ça, j'aimerais pas ça. J'aime ça, la variabilité, j'aime ça changer d'hôpital. Je travaille au Général, je travaille au Glen, je travaille dans les cliniques privées, je fais des semaines de remplacement, donc mes semaines, ils se ressemblent jamais, donc il y a beaucoup de variabilité à chaque jour. Et pour moi, c'est quelque chose que j'aime. Mais c'est le même que j'ai construit ma pratique, on va dire. Il y a du monde qui veulent avoir... Moi, je vais là à chaque jour puis je fais ça. Ouais. C'est correct. Si tout le monde aimerait la même chose, on serait dans le trouble, hein? donc, c'est un petit peu ça.
Puis sinon, vous avez parlé un peu de votre fellowship. T'sais, qu'est-ce qui vous a poussé à aller faire un fellowship? C'était aux États-Unis, n'est-ce pas?
Oui, c'est sûr que moi, je voulais faire un fellowship. Ben, pour revenir, quand j'ai décidé d'aller en radio, J'avais une idée c'était quoi la radio, mais dès que j'ai fait ma première rotation en musculo-squelettique, c'est comme OK, ouais, non, c'est ça, that's it, fini. Là, c'était sûr que c'était ça. Puis dès ma deuxième année de résidence, je savais que c'était MSK que je voulais faire parce que avec mon background, tout, je vais pas dire que c'était facile, mais c'était beaucoup plus facile. j'avais beaucoup de connaissances et j'étais capable d'appliquer ça relativement vite. Donc oui, je voulais faire MSK. Puis là, avec le temps, c'est là tu décides, OK, est-ce que je voulais travailler à Montréal, puis j'étais fatiguant avec le gars de McGill, je veux une job, tu m'as fait une job, c'était non, puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a lâché, puis il y avait une ouverture, puis il fallait que je fasse mon fellowship, puis j'ai décidé de choisir un fellowship parce qu'il y avait beaucoup d'échographie, c'est quelque chose peut-être qui manquait dans notre groupe. Parce qu'on essaie, comme dans notre groupe MSK, comme j'ai dit, il y a du monde qui sont plus IRM, il y a du monde qui sont plus autre chose, mais l'aspect échographie, il avait besoin d'un développement, je pense. Il fallait mettre un peu plus d'accès là-dessus. Donc, mon fellowship, c'était à l'Université du Michigan, qui avait beaucoup, c'était un centre aux États-Unis qui est reconnu pour l'échographie MSK. Donc, j'ai fait ça, puis j'ai ramené cette expertise-là ici, et je l'ai développée encore plus après ça, là.
Ouais. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail au jour le jour?
Honnêtement, après 11 ans, ça fait 11 ans plus résidence, donc ça fait 16 ans que je regarde des scans puis des choses, puis à chaque semaine, je vois des affaires que j'ai jamais vues. Ça, c'est comme stressant.
Chaque semaine,
là, je vois des affaires que j'ai jamais vu ça. Tu sais, tu le sais un peu c'est quoi, mais tu n'as jamais vu ça. Puis il y a des cas, à chaque couple de semaines, il y a des cas, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est, OK, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Puis là, tu parles au chirurgien, tu as du feedback, tu fais des biopsies. Donc, cet aspect-là de constance, de oui, je veux pas dire que tout est nouveau, puis tout, tu sais, ton bread and butter, puis après que tu aies vu 2000 ACL tear, c'est ça qui est ça, là. Mais tu sais, c'est le bread and butter. Oui, t'en as, mais t'as des cas intéressants à chaque jour. Un autre aspect que j'aime, c'est travailler en centre universitaire, l'enseignement. Moi, j'aime l'enseignement, j'aime ça interagir avec les fellows, j'aime ça interagir avec les résidents, avec les étudiants de médecine aussi. C'est quelque chose qui est motivant, qui me donne de l'énergie, qui you know, keeps you on your toes. Quand les étudiants ou les résidents te demandent des questions, puis là, tu sais, comme tu réponds au crush un peu, puis tu dis dans ta tête, oh, je sais pas trop la réponse, puis tu vas voir plus tard. Là.
Ouais.
Donc, it keeps you sharp. Donc, cet aspect-là de you know, constantly voir des choses que tu n'as pas vues, puis d'interagir avec les résidents et fellows, ça, c'est super trippant. Mais d'un autre côté, le changement est bon parce que j'aime être en clinique privée puis être tout seul dans ma journée. Je fais mes choses tout seul. Il n'y a personne qui me dérange. Ça aussi, j'aime ça. Donc, pour moi, c'est la variabilité que j'ai créée avec mes spécialités que j'aime. C'est pas une affaire. C'est de répondre précisément à une question. C'est difficile. Mais c'est vraiment la variabilité des cas puis de voir encore des choses que tu n'as jamais vues. Ça, c'est fascinant un peu.
Puis au contraire, la question de l'autre côté, c'est quoi que vous aimez le moins de la spécialité?
Il y a beaucoup de répétitions. Beaucoup de répétitions. De lire les radios puis des piles de radio puis faire les mêmes cas, des tonnes de mêmes cas, ça devient très, très répétitif. Ça, c'est moins fun. Là, quand t'es comme, tu rentres le matin puis tu as 22 scans de la colonne cervicale à lire. Oui, c'est correct, c'est le fun, ça fait partie de la job. Toutes les spécialités, toutes les choses ont leur positif et négatif et toutes les choses ont leur chose qu'il y en a beaucoup puis que c'est moins le fun.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est un aspect peut-être qui est un peu plus redondant qu'il est le fun, mais encore une fois, chaque hôpital est différent. C'est pour ça que j'aime la variabilité, que tu sais, j'ai pas tout ça à chaque matin, sinon, peut-être que je serais pas ici aujourd'hui.
Est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants qui seraient peut-être intéressés par la radio, peut-être qui regardent un peu ce domaine-là, tu sais, dans comment s'aligner ou ces choses?
Je pense que c'est important, c'est de faire ta propre opinion. Pour moi, comme j'ai dit en médecine, j'avais aucune idée c'était quoi la radio dans mes premières années. Là. C'était mystérieux. Puis là, tu entends différentes choses de différents mondes. Chacun a son opinion. Tout le monde a le droit à son opinion. Puis il faut le respecter. Mais je pense que c'est important de faire ton propre cheminement, d'aller voir, d'aller faire un elective.
Ouais, un stage de ton choix.
Faire un stage à option et d'avoir l'expérience toi-même, de prendre tes propres idées puis de décider toi-même. Ça, c'est super important. Laisse pas les autres te dire non, fais pas ça, c'est poche à cause de X, Y, Z. Puis là, OK, ouais, c'est vrai. Si tu l'as jamais vécu toi-même, je pense que c'est important d'avoir cette expérience-là parce qu'il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de choses en radio. Comme tu dis, ah, t'es assis dans ta chambre noire puis tu fais rien à journée, tu te parles à personne. Oui, il y a une composante de ça, mais c'est un peu différent de ça. Donc c'est important de venir, de voir, de faire un stage à option. Puis dans ton stage à option, c'est aussi important de contrôler la souris. Si jamais il y a quelqu'un qui fait un stage, là, essayez de toucher la souris parce qu'être assis en arrière de quelqu'un, à regarder quelqu'un contrôler la souris puis regarder un scan, ça peut être difficile. Donc, si jamais tu fais un stage, essaye, tu ne seras pas dicté et tout, en tout cas, on n'est pas rendu là, peut-être dans une couple d'années, mais de contrôler la souris, puis de regarder, de scanner toi-même sur le cas et tout, ça aussi, c'est important, parce que c'est très, très différent d'être actif puis interagir avec l'ordinateur que d'être assis en arrière, puis l'autre, puis ça peut devenir très, très... ça peut devenir très plate, puis mind-numbing, puis boring. Anyway, d'avoir une bonne expérience, puis d'être ouvert, puis de faire ses propres idées, ce serait ma meilleure affaire. C'est experience yourself, do it, puis fais tes propres conclusions en place de te fier à quelqu'un d'autre.
C'est un bon conseil. Puis moi, j'avais une question. On entend souvent que les radiologistes, ils peuvent travailler de chez eux. C'est quelle proportion du temps, mettons, que la majorité passe à travailler à la maison?
Je dirais que c'est dans notre milieu, c'est moins que d'autres parce qu'il faut être sur place. Il y a beaucoup d'échographies, il y a beaucoup de... il y a des procédures, il faut superviser les IRM, on a besoin de quelqu'un sur place pour les choses, mais quand on est deux, des fois, on travaille à la maison, je dirais c'est 10 à 20%. Mais quand je suis de garde, c'est extrêmement rare que je rentre. Donc, comme j'ai dit, ça a suivi la technologie. Donc, mon ordinateur à la maison, il est même meilleur que certaines stations à l'hôpital. Donc, mon setup à la maison, je peux faire tout que ce que je fais à la maison que ce que je fais à l'hôpital. Donc, quand je suis de garde, je me réveille le matin. Des fois, c'est de bonne heure, puis je lis mes scans de la maison. Si je me fais appeler le soir pour lire un scan, je suis très chanceux comparé à d'autres spécialités. Non, je me lève, je vais à mon ordinateur, puis je lis le scan, puis je vais me recoucher. Oui, des fois, il faut que je rentre, mais c'est rare. Donc, again, il y a des avantages, il y a des désavantages. Il y a des gardes que je me fais réveiller à toutes les heures, de minuit à 6 heures. Là, donc, ça, c'est moins trippant, mais ça fait partie de la game. Donc, oui, l'aspect travailler à la maison, ça peut être développé. Certains centres, puis d'autres hôpitaux travaillent plus ou moins. Nous, c'est un peu plus bas à cause qu'il faut vraiment être présent puis être là avec les fellows. Puis on a beaucoup de procédures et de choses comme ça. Donc, il faut que tu sois sur place. Mais c'est très variable de spécialité. C'est une spécialité qui n'a pas de procédure, c'est juste du diagnostic. Tu as plus d'opportunités de faire ça à la maison.
Mm-hmm. Puis la conciliation... travail, vie personnelle en radiologie, justement, vu que déjà vous dites que de garde, souvent vous n'avez pas besoin de vous rendre sur place, fait que ça doit, comparativement à d'autres, ça doit être un peu mieux, j'imagine.
Regarde, j'ai fait la médecine, j'ai pas fait de résidence dans d'autres spécialités, mais je vois ce que les résidents font. Je trouve que t'as plus de contrôle sur l'horaire. T'es capable de mieux gérer l'horaire. Comme j'ai dit, moi, je travaille, mais à 5 heures, je veux être parti. Mais si je sacrifie mon heure de lunch pour pas que, tu sais, je veux être à la maison à 5 heures, il y a les enfants, il y a les devoirs, il y a tout le kit. Donc, t'es capable de gérer, je trouve que t'es capable de gérer plus ton horaire, puis il y a moins de facteurs externes qui viennent influencer peut-être quand tu peux partir et tout. Ça, je me base sur mes expériences en médecine. Là. Tu sais, c'était comme, je me souviens, un vendredi, j'étais en chirurgie, je passais pas en ortho, là. Mais là, il arrive à 4 heures, moi, je voulais partir, je m'en vais à Montréal, puis là, il y a 2 consultes à l'urgence, puis là, ça continue. Je veux pas dire, oui, ça arrive en radio qu'on a des IRM à 4 heures et tout, puis je pars tard, mais je trouve qu'il y a moins de facteurs externes qui viennent influencer, c'est plus toi qui contrôles tes choses. Donc, de ce côté-là, c'est intéressant. Puis au niveau de qualité de vie, mais c'est variable, ça dépend. Comme patron, c'est quand même le fun quand tu as des résidents et tout, puis tu as des fellows, tu as des bons fellows, puis... Donc, c'est... En tout cas, moi, je trouve que c'est très bien. Je trouve mon travail à maison, ça marche relativement bien avec les enfants, le pick-up, l'école. Comme j'ai dit, c'est assez flexible et tout, puis tu es capable de contrôler ton horaire peut-être un petit peu plus. Mais à la fin de la journée, la chose la plus importante, c'est faire quelque chose que tu aimes. Mm-hmm. Si tu n'aimes pas la radio, puis tu n'aimes pas ça être assis puis lire des cas, c'est pas la spécialité pour toi. Donc, c'est un petit peu ça que je dis aux étudiants. Des fois, fais quelque chose que tu aimes, puis après ça, c'est rendu facile. Là.
Le reste, il suit. Quand tu aimes ce que tu fais, tout là à côté, tu vas un peu avec.
Ça passe mieux.
Ouais, ça passe mieux, puis... au niveau du choix, je sais que c'est difficile, des fois, tu ne sais pas. Quelqu'un qui m'avait dit ça quand j'étais en médecine aussi, qu'est-ce qui est peut-être plus facile, des fois, c'est de commencer par qu'est-ce que tu ne veux pas faire. Des fois, c'est beaucoup plus facile qu'est-ce que tu ne veux pas faire. Fait que tu élimines qu'est-ce que tu ne veux pas faire, puis à la fin de la journée, il te reste une couple d'options, puis à la place de regarder puis de dire « Ah, oh, c'est quoi? Je sais pas. » Process of elimination, des fois, ça marche bien. Un peu comme répondre à des questions choix multiples. Mais tu élimines les pas corrects, puis il en reste une, puis la moins pas correcte, ou la bonne, des fois.
On va espérer que ce soit la bonne. Ouais.
Fait que ça, c'était quelqu'un m'avait dit ça, puis moi, il y avait certaines choses que c'était non, puis après ça, tu rapetisses ta liste au moins. Fait que ça peut être moins overwhelming pour faire un choix quand tu as éliminé plein de choses que tu sais vraiment que tu ne veux pas faire. Ça peut peut-être aider à tes choix de stage option et tout ça. Donc, ça peut un peu moduler comment que tu vas faire ta troisième et quatrième année. Là.
Ouais, c'est ça. C'est des bons conseils.
Oui, vraiment.
Ouais. Ben merci. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait aborder. Là.
Ben oui.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Puis ça a été
c'est vraiment super, apprécié.
Ouais, une super belle discussion.
Un plaisir, c'est le fun. Sinon, partager les choses.
On a aussi des commanditaires en fait, qui nous permettent de vous offrir des cadeaux.
Oui, okay. On voudrait remercier François Lambert et la boîte à vin qui nous permettent de...
Fantastique.
C'est ça, de gratter okay. Un peu nos invités.
Ouais. Puis sinon, pour ceux qui nous écoutent, en fait, n'hésitez pas, vous faites like, commenter, nous envoyer des questions, on va y répondre. Si vous voulez voir des invités spéciaux, écrivez-les-nous. Ouais.
De mon côté, si vous avez des questions, mon email doit être en quelque part sur McGill, en quelque part. Que, envoyez-moi un email, venez me voir. Il y a une couple de vos collègues qui sont déjà venus me voir puis ont fait des journées avec moi. Fait que c'est tout le temps. Comme j'ai dit, c'est important de faire sa propre opinion puis de venir voir pour le vrai, c'est quoi la spécialité.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci.